Vous vous souviendrez peut-être qu'il y a quelques semaines, je parlais avec le ministre Éric Kerr dans mon carnet de la possibilité pour le gouvernement du Québec d'envisager de miser sur une IA québécoise, une IA installée au Québec, encadrée par des lois québécoises et canadiennes, et puis surtout qui protégerait l'IA, mais surtout les données qu'elle utilise par des lois de chez nous. Et je voulais revenir sur le sujet de l'IA souveraine parce que c'est un concept dont on parle de plus en plus à travers le monde. Et il y a une entreprise québécoise, Micrologic, qui travaille justement sur l'installation d'une IA souveraine localisée au Québec avec comme partenaire, imaginez-vous, NVIDIA, le même gros géant qui travaille avec OpenAI, Microsoft, Google, Amazon et compagnie. Alors, j'étais curieux d'en savoir plus sur son projet. Alors, je l'ai invité. Il a accepté mon invitation. Alors, on le retrouve à l'instant en direct de Québec. Bonjour, Stéphane Garneau.
Bonjour, monsieur. Ça va bien?
Ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Stéphane Garneau, ce qui est intéressant dans votre histoire, vous avez été, je dirais, au Québec, en tout cas, un des pionniers pour l'avancement de la souveraineté au niveau de l'info nuagique. Vous oui. avez défendu ça à bras-le-corps. Et puis, j'étais curieux d'abord de prendre des nouvelles de ce dossier-là. Est-ce que vous trouvez que, notamment le gouvernement, mais aussi les entreprises, ont été sensibles à cet appel-là et vous trouvez qu'ils en font assez?
C'est une bonne question. Est-ce que les entreprises et le gouvernement en font assez? Si je me compare en Europe, ce qui se passe, je dirais qu'ils ont été inquiets et ils ont manifesté, je dirais, du patriotisme numérique très longtemps avant nous. Et je dirais même qu'on n'est pas encore rendu là. Donc, ce qui est en train de se passer au niveau européen, quand je regarde, c'est un peu ça qui me motive en me disant, OK, eux autres, ils comprennent c'est quoi la souveraineté numérique, ils comprennent c'est quoi le cloud souverain, ils comprennent c'est quoi l'importance de se doter d'infrastructures, oui, mais de services infonuagiques locaux où ce qu'on va être capable de comprendre puis où ce qu'on va être capable de faire évoluer nous-mêmes notre société par rapport aux besoins qu'on a et non pas juste prendre ce qui nous est livré sur un plateau d'argent par l'autre continent. Fait que ça, je regarde l'Europe puis me dis, est-ce que ils ont cette réflexion-là justement parce qu'ils sont sur un autre continent, puis nous, on l'a juste pas parce qu'on est de l'autre côté en Amérique, puis qu'on se dit que nos voisins, ben c'est nos amis, ils vont être des amis éternels, puis qu'il n'y a jamais de problème avec la donnée. Je ne le sais pas honnêtement. Sociétalement là, parlant, là, je ne sais pas pourquoi il y a un si gros clash entre les deux. Puis je le confirme, c'est pas encore arrivé ici. Donc les gens, quand je parle aux clients, puis que je leur explique la souveraineté numérique, l'importance, puis tu sais les gens, ils nous réfèrent souvent uniquement au Patriot Act en disant que les lois sont différentes ici versus les États-Unis. Mais on dirait que les gens, ils passent vite. Une fois qu'on leur a expliqué ça, ils passent vite. Après ça, je donne d'autres mandats qui peuvent être intéressants. Tu sais, un cloud souverain ou l'info nuagique souverain dans un pays, ça a d'autres avantages que juste le volet légal. Et c'est là, à partir de là, que les gens commencent peut-être à comparer ces avantages-là, mais vraiment pas dans un contexte de, je dirais, de les gens ne réalisent pas, en fait, c'est le potentiel qu'on a. Et les gens ont aussi le sentiment que l'info nuagique, ce n'est pas à notre portée, alors que c'est à notre portée. La preuve, c'est qu'on le fait. On le fait bien, puis on le fait dans des très grandes organisations. Fait que la première question que vous avez posée, est-ce que ça va bien? Ça va excessivement bien nos affaires. Mais pas à cause du volet souverain que les gens ont eu un éveil, mais plus à cause de, on a réalisé des belles choses, on a réalisé des beaux exploits technologiques, puis on a surtout confirmé que c'était à notre portée, puis on a surtout confirmé que c'était possible au Canada et au Québec de pouvoir en faire beaucoup sur nos propres installations. Alors, à partir de ce moment-là, comment faire pour créer l'éveil? À partir du moment où tu sais que quelqu'un qui peut le faire chez toi, sur ton propre territoire, ben est-ce que tu commences à reconsidérer tout ce que tu donnes sans réfléchir aux États-Unis ou tu te mets à réfléchir? Puis je pense que le gouvernement ne le fait pas. Le gouvernement ne le fait pas, mais pas du tout. Là. Je vous dirais, j'ai l'impression en fait que le gouvernement ne nous voit pas. J'ai jamais moi parlé à personne là, du gouvernement qui nous ont dit « Oui, ça serait cool là, que tu viennes nous présenter le projet québécois. » Puis Non, ça arrive pas. Ça. J'ai jamais reçu un appel de personne en disant « Viens nous présenter. Là. Ça a l'air qu'on a un cloud dans notre propre cours. Là. Puis là, je suis en train de signer des contrats avec les Américains. Puis je veux voir avant de signer. Y a-t-il quelque chose que tu pourrais faire? » Non, ça m'arrive jamais. Ça ferait mon rêve d'avoir ce genre d'appel-là, mais c'est jamais arrivé.
Et pourtant, c'est vraiment surprenant parce que depuis des années, vous avez ce projet Cyrus que vous avez mis en place, qui répond aux besoins d'énormément de clients dans le domaine du commercial. Et vous sentez pas ce même intérêt de la part du gouvernement québécois.
En fait, même dans les organismes gouvernementaux, j'ai fait des grandes réalisations, là. Puis, tu sais, un des défauts de l'infonuagique, c'est qu'on est très frileux à dire le nom de nos clients. Moi, je voudrais pas, si j'étais client chez un fournisseur X, Y ou Z, j'aimerais pas que mon fournisseur dise, ben, toi, t'es client chez nous, parce qu'on s'entend, là, qu'on dépose nos informations les plus confidentielles. Mais je vous confirme que la majorité des plus gros organismes gouvernementaux font affaire avec nous autres. Et pour les énormes projets, des projets là, de dizaines de millions, mais je vais appeler ça la structure gouvernementale en soi, non, eux autres, ils nous considèrent pas. Donc, c'est vraiment nous qui allons au-devant, qui faisons notre démarchage, qui essayons de convaincre les décideurs, puis finalement, une fois de temps en temps, on réussit, entre guillemets, à accrocher quelque chose, puis au corporatif, dans les grandes entreprises, puis pas des titres, là, je parle de banques, de compagnies d'assurance, nommez, mettons, les 10 plus grandes entreprises au Québec, là, puis d'après moi, j'ai la moitié de ces entreprises-là qui sont sur notre nuage. Fait que les ministères et organismes peuvent pas nous dire, ouais, mais ils sont plus petits, eux autres. Non, moi, d'après moi, s'il y a une banque, si on a réussi à déployer chez une banque, si on a réussi à déployer dans les plus gros ministères et organismes provinciaux, et puis là, on fait notre démarchage pour le fédéral. Ça veut dire qu'on est capable, ça veut dire qu'il y a un succès, et pas depuis 6 mois, là, c'est depuis 2014 que, année après année, on bâtit puis on fait évoluer. Puis à un moment donné, est-ce que je me suis résigné à dire, bon, ben, le gouvernement sera juste pour mon meilleur client, puis je vais aller faire mes choses à l'extérieur, puis je vais justement me regarder ce qu'on fait bien ici, puis je vais essayer d'exporter mon expertise de façon pan-canadienne et à l'étranger. Malheureusement, c'est un peu ça que je suis en train de me dire. Bon, je le dis vraiment malheureusement parce que je suis un produit, moi, je vais appeler ça du Québec. J'ai étudié ici, je viens, j'habitais dans un HLM là, dans le quartier Saint-Roch. J'ai réussi à bâtir une belle business, j'ai réussi à bâtir un beau club. Il y a quelqu'un dans la vie, mettons, là, que la société publique devrait dire, ben ça, c'est un modèle qui c'est ça qu'on cherche. Là. Tu sais, quand ils disent tout le temps, il n'y a pas assez d'entrepreneurs au Québec. Ben là, j'en suis un, moi. Je suis la preuve que j'en suis un. Je génère 350 emplois. Bientôt, on rajoute une centaine. En fait, dans la prochaine année, on en rajoute d'autres. C'est énorme. Puis, je regarde on fait de la recherche et développement. On fait exactement ce que la société dit qu'on devrait faire. Tout autrement dit, c'est quoi le modèle que la société cherche, là? C'est nous. Mais là, est-ce que la société est capable de dire, ben, good job, puis, tu sais, viens, on va te montrer c'est quoi que tu pourrais faire. Non, ça arrive pas. On se fait qu'on dirait qu'on est fier de dire, voici un beau joyau québécois. Mais quand c'est le temps de dire, est-ce qu'on pourrait faire affaire avec lui? Non, là, on se sauve en courant. Je vous le dis, là, on dirait que des fois, je m'en vais dans des événements, puis je vois un peu le tu sais, des fois, là, tu dis, ah non, lui, c'est l'entreprise d'ici, si je vais le voir, c'est sûr qu'il va vouloir travailler avec nous autres. Tu sais, je me dis, des fois, ça va être ça. Non, c'est pas ça du tout.
Aïe, aïe, aïe. Et
Ouais.
donc, si on se parle aujourd'hui, c'est parce qu'en plus de ce défi qui est immense de l'infonuagique, dans un contexte où on parle de transformation numérique, et ça autant au niveau du privé que du public, arrive depuis un certain moment l'enjeu de l'intelligence artificielle. Vous avez décidé de pousser, de mettre l'avant, comme vous l'avez fait dans les solutions de l'infonuagique, le scénario du possible d'avoir une IA souveraine au Québec, comme ça se fait ailleurs, comme c'est en train de se déployer ailleurs, mais là, vous y mettez vraiment les moyens pour justement arriver à offrir ça.
Exact. En fait, la notion souveraine de l'infonuagique, ça fait longtemps qu'on en entend parler et il y avait des raisons pour qu'on en entend parler. Puis il y a encore des raisons aujourd'hui, je dirais avec le contexte géopolitique actuel, avec tout ce qui se passe. Tu sais, on l'a vu récemment là, avec les GAFAM, les problématiques qu'il y a eu au niveau des lois qui ont pas fait leur affaire au niveau des médias. Et on l'a vu, là, si ça fait pas leur affaire au niveau législatif, c'est eux autres qui ont le gros bout du bâton, c'est pas nous autres. Ni le Québec, ni le Canada peut dire qu'ils ont le gros bout du bâton. Puis là, on a réussi à faire une coupe de trucs là avec Google dans les derniers mois, mais on le voit là que c'est très, très fragile. Donc, le volet souverain de l'infonuagique, je le comprenais bien, puis je le comprends encore très, très bien. Puis là, on voit l'intelligence artificielle arriver, qui va être aussi je dirais, majoritairement poussé par le GAFAM. Tu sais, ça va jouer sur 3-4 joueurs qui vont essayer de positionner des solutions puis du traitement. Puis, comme l'info nuagique, quand je regarde ça, je me dis, c'est-tu à notre portée? Est-ce que c'est quelque chose que, technologiquement parlant, pour avoir des milliards dans son compte de banque pour pouvoir le propulser? Est-ce que c'est quelque chose que ça prend des cerveaux qu'on n'a pas ici au Québec puis qui sont juste en Californie? Fait que là, j'essayais, moi, je suis curieux, là, de me dire que c'est impossible, c'est là que ça me motive. Fait que là, je suis allé voir mon ami Martin Bouchard de Qscale, qui est aussi un des grands entrepreneurs techno au Québec. Puis Martin, il y a eu beaucoup de succès, là.
Puis on
Oui.
va mentionner au passage que pour les plus
Oui.
vieux là, qui nous écoutent, c'est le père de Copernic qui avait
Tout à fait.
révolutionné le monde de la recherche au tout début, là, à la fin des années 90. Ça va vous présenter le personnage, quelqu'un
Tout à
qui
fait.
voit loin et depuis longtemps.
Et c'est un des pères fondateurs des premiers centres de traitement tiers-3 dans la région, puis à Montréal, qui a fait en sorte que les compagnies comme des grands géants là, américains que je peux pas nommer sont venus s'établir ici. C'est entre autres à cause que Martin a décidé de partir des centres de données. Donc là, le dernier projet de Martin, il s'appelle Qscale. C'est situé sur la rive sud de Québec. Puis c'est un centre de données, mais vraiment dédié au calcul haute performance, puis dédié à l'intelligence artificielle. Puis en toute transparence, je savais pas de quoi il parlait Martin quand il m'expliquait ça. Fait que je suis allé visiter. Puis en visitant ces centres de données qui sont sur la rive sud, sont absolument exceptionnels. Là, on parle de, c'est incroyable de visiter ça. Puis là, je regardais ça, puis je disais Martin, à quoi ça va servir? Puis là, on était là avant ChatGPT, puis on était avant toutes ces époques-là. Fait que là, je disais, à quoi ça va servir? Puis là, Martin me disait, Stéphane, c'est une catastrophe en ce moment quand on a besoin de faire de la grande capacité de calcul puis la grande capacité de traitement. C'est une catastrophe au niveau environnemental parce que ça génère tellement, tellement de chaleur, parce que ça consomme tellement d'électricité, ça coûte tellement cher à refroidir que nous, là, les humains là, qui s'imaginons que c'est une bonne nouvelle, l'IA puis le HPC, si on installe ça dans des centres de données réguliers, ça va être une catastrophe environnementale. Fait que là, lui, son idée puis son concept, c'est-à-dire, on va utiliser notre hydroélectricité, on va utiliser notre climat qui est excessivement favorable parce qu'il fait plus froid ici, donc on est obligé de moins climatiser. Puis on va faire un système de circulation en circuit fermé qui va refroidir les équipements. Puis avec ça, on va pouvoir créer un centre de données près de proche d'éco-responsable. Puis là, il m'explique, il dit, le dernier petit bout qui manque, là, c'est la fameuse récupération de chaleur. Tous ces serveurs-là qui produisent la chaleur, ben nous, on va essayer de la récupérer, cette chaleur-là, pour aller réchauffer des serres. Soit faire pousser des fraises, des tomates ou quoi que ce soit. Là, je regardais Martin, puis je me disais, My God, on n'est plus en train de juste mettre des serveurs dans un centre de données. Là, on est ailleurs, mais complètement ailleurs. Puis là, il continuait à m'expliquer ça. Puis Martin, il dit, tu sais, Stéphane, l'avènement de l'intelligence artificielle, on est beaucoup dans la portion d'apprentissage en ce moment. On est vraiment là, il faut apprendre des tas de données massives. Puis il dit, le contexte d'apprentissage, la meilleure technologie pour faire ça, c'est des processeurs de cartes vidéo. Par exemple, Nvidia, c'est le joueur actuellement à travers le monde qui est capable de faire le plus grand nombre de calculs, je vais dire au pied carré. Autrement dit, avec la densité, là, avec la densité qui possède au niveau des cartes, c'est eux autres qui sont des champions. Puis là, il me conseille, il dit, tu devrais aller les voir parce que toi, avec ton cloud souverain, Martin avait entendu dire que Nvidia se cherchait justement un réseau mondial de partenaires souverains. Fait qu'il devrait aller les voir parce qu'au Canada, à ce que je cherche, on n'en a pas encore d'infrastructure comme ça. Fait que je suis parti, je suis allé voir Nvidia en Californie. J'ai rencontré le numéro un mondial d'intelligence artificielle. Puis là, il m'a dit à peu près les mêmes choses que Martin en disant, oui, c'est vrai qu'on se cherche une structure mondiale pour le calcul haute performance. Puis là, ChatGPT, quand je l'ai rencontré, là, c'était en janvier, puis ça faisait 2 mois que ChatGPT était sorti de façon un peu plus publique. Puis là, il me donnait toutes des références avec ChatGPT, puis il m'expliquait la quantité de cartes que ça l'avait pris, parce que c'est des cartes Nvidia qui avaient fait le modèle d'entraînement de ChatGPT, puis il m'expliquait la quantité de cartes. Puis là, quand je regardais ça, je me disais, mais c'est une catastrophe environnementale. Moi, j'avais encore en tête la rencontre que j'ai eue avec Martin. Puis il disait, oui, en effet, c'est une catastrophe environnementale. Puis il dit, on cherche, là, puis on est en train là, pas de constater ce problème-là, parce que c'était déjà fait, mais de dire comment qu'on va faire pour régler cette problématique-là. Puis moi, je dis, ben là, nous, on a peut-être une façon. Puis là, je lui expliquais, dans le fond, le projet de Martin de Qscale. Je lui expliquais notre positionnement pan-canadien pour le cloud souverain. Fait que moi, là, je rentrais exactement dans les cases que Nvidia cherchait. On est un cloud souverain pan-canadien. On avait accès à un centre de données avec récupération de la chaleur, puis de façon éco-responsable. Et on avait accès aussi au territoire canadien. Quand je dis le territoire, on en parlait un peu, le réseau de l'éducation, qui ont leur propre réseau de fibres, le réseau gouvernemental. Nous, on est branchés sur tous ces réseaux-là. Donc, pour tous ces clients-là, pan-canadiens, ils ont un accès direct, je vais dire, dans le tuyau, pour venir se brancher sur le centre de données éco-responsable. Fait qu'il y avait une logique, là, incroyable entre nous, NVIDIA et Qscaler. Fait que c'est pour ça qu'on est allé de l'avant. Puis quand je dis on est allé de l'avant, c'est que on est vraiment allé de l'avant. J'ai pris une quantité astronomique de mégawatts chez Martin, beaucoup trop. Mais dans ce domaine-là, il faut en prendre beaucoup parce que si on le voit là avec le gouvernement, il y a des restrictions d'électricité, il y a des restrictions. Tu sais, si tu pars une business en info nuagique, puis si tu pars une business en intelligence artificielle, il faut que tu cales la shot sur qu'est-ce que je peux, entre guillemets, provisionner pour 2, 3 ou 4 ans. Ça veut dire que c'est des mégawatts et des mégawatts. À titre informatif, là, on a 8 mégawatts juste au Québec, dans nos centres de traitement. C'est des millions et des millions de dollars. Les gens réalisent pas c'est quoi 8 mégawatts, là. Moi, je le réalise quand je le
Ça
paye.
chauffe des villages.
Ça chauffe des villages. Fait que tout ça pour dire que pour nous, on s'est rendu compte que le traitement de l'intelligence artificielle, c'est rien d'autre que de faire rouler les équipements NVIDIA à pleine capacité. C'est tout. Il n'y a rien là de plus compliqué que ça. Fait que c'est pas vrai qu'on a besoin de rentrer avec la sauce Aldress, je vais l'appeler comme ça, des hyperscalers ou des géants mondiaux, alors que c'est du traitement très simple. Je vous le dis, c'est la chose la plus compliquée dans le traitement de l'intelligence artificielle, c'est d'avoir accès au centre de distribution, au centre de données, d'avoir accès à l'électricité et d'avoir accès au partenariat, dans le fond, avec NVIDIA pour avoir ces fameuses cartes-là. Parce que là, le danger, puis pas le danger, mais ben, je vais l'appeler le danger mondial en ce moment, c'est que les géants mondiaux comme Google, Microsoft, Amazon, Alibaba et les autres te garochent sur NVIDIA pour dire « on va tout te prendre tes cartes qui sortent ». Fait que c'est ça qui crée un peu le monopole. Puis NVIDIA, de son côté, dit « ben moi, ça me prend un réseau mondial de cloud souverain qui va venir un peu, justement, pour
Contrebalancer.
faire en sorte de contrebalancer ». Donc, j'ai un accès à autrement dit, là, si j'étais monsieur, madame, tout le monde sur le coin de la rue, j'aurais pas accès à ces cartes-là. Alors que là, étant donné que j'ai le statut de cloud officiel NVIDIA pour le pays, j'ai un accès privilégié à ces technologies-là et à cette disponibilité-là. Fait que pour nous, c'est une excellente nouvelle, honnêtement. Puis pour nous, ça vient encore une fois, je vais dire, rajouter à la pertinence de nous avoir à travers le pays. Tu sais, on voit ce qui se passe en ce moment avec VMware, qui ont été rachetés avec Broadcom et qui causent des raz-de-marée d'ennui en ce moment chez les clients. Ben moi, je suis content de dire, on est un cloud officiel VMware, on a la licence pan-canadienne pour le cloud, on est un des 30 à travers le monde qui a cette licence-là. Puis en ce moment, nos clients sont très, très heureux de savoir là, qu'on a ça. Ben NVIDIA, c'est la même chose. J'ai la licence pan-canadienne pour servir le cloud d'intelligence artificielle pour le Canada. J'ai la même chose avec Red Hat pour la portion des conteneurs, puis OpenShift, puis pour la capacité de traitement. Fait que la manière que j'ai travaillé, je dirais, depuis 2014, d'aller chercher justement ces licences de distribution-là, de grands clouds mondiaux qui sont indépendants du Google, Microsoft et Amazon, ben c'était, je dirais, la façon pour nous, sans avoir tous les milliards en recherche et développement, la façon pour nous de prendre des technologies qui sont standardisées, qui sont ouvertes, sont utilisés par la majorité des clients ici. Puis comme je vous dis, si on a besoin de la poutine Aldress, on y va, puis on va consommer, je dirais, des grands clouds. Mais si on a besoin d'un centre de traitement NVIDIA, tout simplement, je l'ai. Si on a besoin d'avoir un berceau d'accueil pour mes licences VMware, je l'ai. Si on a besoin, vous comprenez, c'est un peu dans ce contexte-là que j'ai bâti, dans le fond, mon infrastructure. Puis là, j'ai mis des équipes de développement autour de ça pour qu'eux autres collent ça ensemble, puis qu'ils fassent un portail client, un portail de facturation, un portail de support. Puis dans le fond, c'est ce que je rajoute autour de ces technologies-là. Mais dossier après dossier, mandat après mandat qu'on livre chez les clients, c'est là qu'on réalise qu'on est une petite équipe de 350, puis à chaque mandat, on découvre des choses, à chaque mandat, on innove. Puis c'est pas des blagues, là, je racontais dernièrement, j'ai eu un meeting avec mon équipe de développement. Puis un des éléments qu'on a justement déployé dans une banque, puis qu'on a déployé dans un des plus gros ministères à Québec, la technologie qu'on a, je vais dire, inventée pour ces deux clients-là, on peut le répéter partout à travers l'Amérique. Cette façon de faire-là, on peut la répéter partout. Puis là, on se disait, ben, on fait-tu breveter ça? C'est comme incroyable ce qu'on vient de trouver. Puis là, je me dis, Je me dis, ça, c'est juste 350 personnes. Fait qu'imaginez si, justement, le gouvernement du Québec, le gouvernement canadien comprenait ça, puis se disait, on va les aider eux autres. On va les aider plutôt que de tout mettre l'argent dans les clubs américains. Qu'on peut leur donner, on va leur donner, puis ça va faire en sorte qu'on va se bâtir un noyau d'intelligence. Les gens qui travaillent chez nous, là, ils pourraient travailler soit chez Google, Microsoft ou Amazon, mais ils ont décidé de travailler pour un projet porteur québécois et canadien. Mais c'est les mêmes cerveaux qui sont capables de créer des choses d'exception. Quand tu les crées ici, puis que tu exportes tes innovations-là, ben c'est le Québec qui en profite, c'est pas les Américains. On l'a vu avec Mila. On a créé des choses exceptionnelles. Puis je dis avec Mila, pas avec Mila, mais avec l'intelligence artificielle du côté de Montréal, où ce qu'on avait des cerveaux, puis on a encore des cerveaux, mais qu'on se rend compte qu'elle va acquis cette intelligence-là, est-ce qu'elle se retrouve, dans le fond, dans la propriété actuelle des Américains? La réponse est oui, malheureusement. Alors, est-ce qu'on veut faire la même chose du côté de l'info nuagique et du traitement de l'intelligence artificielle, alors que là, on a la capacité de garder cette intelligence d'affaires ici, cette intelligence technologique-là? Puis, moi, j'ai 52 ans, puis toute ma vie, quand je disais l'achat local, c'est important, j'avais toujours en tête, quand tu achètes une pomme, ben, tu encourages le cultivateur, tu encourages la famille, puis, by the way, ça donne des impôts au gouvernement. Mais la notion de dire que tu fais aussi un bassin de noyaux d'expertise, puis ce bassin de noyaux-là, quand tu les mets ensemble, ils peuvent innover puis créer des choses qui vont exporter ce savoir-là de façon mondiale, c'est pas mal plus grand que d'acheter une pomme puis de dire merci au cultivateur. C'est pas mal plus grand que ben des affaires qu'on peut considérer. Fait que je le dis honnêtement, sans prétention, je pense que je suis assis sur quelque chose qui est plus grand que ce que les gens pensent et que si j'avais le support de la société, si j'avais le support des gens là, ici, on pourrait en faire des choses encore plus grandioses. Mais parce que je n'attends pas après les gens, on va quand même faire des choses grandioses, puis on va quand même aller chercher nos éléments, puis je vais me dire à la fin tout simplement qu'on l'a fait par nous-mêmes, puis qu'on n'a pas eu tant que ça le support. C'est triste à dire, honnêtement, je le dis avec. Il y a des gens qui travaillent chez nous là, depuis. On a des gens vraiment exceptionnels qui ont été dans divers. Politique, dans les plus grandes sociétés qui sont rentrées chez nous, puis aussitôt qu'ils rentrent chez nous, au bout de 6 mois, ils viennent me voir et ils me disent « Ça n'a pas de bon sens, Stéphane, ça n'a pas de bon sens. » Pour vrai, là, le constat général dans la micrologie, c'est ça n'a aucun bon sens qu'on ait réussi à faire ça, qu'on soit assis là-dessus puis que personne ne réalise. Ça, c'est le constat général de tout le monde qui rentre chez micrologie. C'est pour ça que je mets ma face un peu partout, pour que les gens connaissent un peu plus notre histoire, sans prétention, sans dire non plus que c'est une grosse business américaine qui a réussi à faire ça avec des investissements. Ou encore que c'est une business qui est allée pomper l'argent du gouvernement pour fabriquer ça. Moi, j'ai jamais pompé l'argent à personne. Je l'ai fait avec ma propre argent depuis des années. Puis ça aussi, c'est une fierté. Mais étant donné que je l'ai fait avec ma propre argent, on dirait que ça a le moins d'impact que si j'avais été chercher 200, 300 millions au gouvernement, puis que là, parce que j'étais allé chercher 300 millions au gouvernement, le gouvernement se sentirait, ah oh, ben on va l'aider, il a prêté 300 millions. Tu sais, je suis pas dans ce rapport de force-là, malheureusement. Et pourtant, je trouve que c'est ça la way to go, là. C'est ce qu'on a fait, tu sais, de pas aller chercher l'argent, mais de le faire soi-même. Puis une fois que c'est fait, de dire, hey, les amis, je l'ai fabriqué, venez le consommer, ça serait tellement facile. Tu sais, j'en vois, là, des situations où ce que je vois des fois des annonces gouvernementales qui parlent de, on va fabriquer un ci, on va fabriquer un ça. Moi, je suis là, je me dis, ben, on l'a déjà, on l'a fait. J'ai 350 technologues qui l'ont fait. Pourquoi tu veux le refaire alors que tu as une business dans ta cour? Je vais appeler ça un de tes enfants québécois le fait, puis tu veux même pas l'utiliser, tu vas le refaire avec un consultant, puis avec un géant américain, puis tu vas me compétitionner dans le fond dans mon propre territoire. C'est un peu ça qu'on vit en fait là, actuellement. Fait que voilà. Une chance que je suis positif et optimiste, honnêtement.
Ben, Stéphane Garneau, c'est sur cette bonne note qu'on va mettre un terme à cette rencontre, mais je vous remercie infiniment de tous les efforts que vous mettez justement à s'assurer que le Québec ait ce type d'outil-là. J'ai le Québec, mais le Canada aussi, parce que vous couvrez tout le pays maintenant. Stéphane Garneau, je rappelle, vous êtes président de Micrologique. Évidemment, ben, les gens qui sont intéressés par ou votre solution InfoNuagique ou votre solution d'IA, ben, ils trouveront de l'information sur votre site Micrologique. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions.
Merci, c'était un grand plaisir.
Au revoir.
Merci.